France Culture.
Et le journal de la rédaction vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Au cœur de l'été, c'est un texte de loi qui cristallise toutes les attentions en raison d'une pétition qui enregistre des records de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. On parle de la loi Duplon et d'une pétition contre ce texte. Nous y reviendrons et nous verrons qu'ailleurs en Europe, le pesticide incriminé, l'acétamipride, suscite aussi des questionnements.
Après Limoges, Béziers, la liste des villes moyennes victimes de violences urbaines s'allonge. Nous entendrons l'analyse du procureur de Béziers, Raphaël Ballan.
En Syrie, le calme règne désormais à Soueïda après les affrontements entre Druzes et Bédouins de la semaine dernière. L'urgence est à l'aide humanitaire, mais ce n'est pas si simple d'acheminer les convois. Reportage à venir de notre envoyé spécial.
Au Japon, après la percée de l'extrême droite aux élections sénatoriales, le Premier ministre est en sursis, mais malgré son impopularité, il s'accroche au pouvoir.
Enfin, direction le Finistère en fin de journal avec un hôtel 4 étoiles qui supprime sa piscine et son hammam au nom de l'urgence écologique. Le sénateur LR Laurent Duplon dénonce ce midi une pétition instrumentalisée contre la loi qui porte son nom, la loi Duplon, qui prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Selon le sénateur, cette pétition serait destinée à mettre la pression sur le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le texte d'ici le 10 août. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette pétition ravive les querelles autour de ce texte déjà très contesté. Caroline.
Oui, à l'image de Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, elle avait déjà scandalisé une partie des agriculteurs il y a 10 jours avec cette déclaration. Je cite, je n'en ai rien à péter de leur rentabilité. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, c'est de l'argent sale. Des propos qu'elle assume ce matin sur France Info.
Quand on fait de la rentabilité pour de l'agro-industrie et qu'on le fait au détriment de la santé des personnes, parce que l'acétamipride, c'est présent dans l'eau, c'est même présent dans l'eau de pluie, dans les nuages, c'est-à-dire qu'on en a retrouvé dans l'eau qui tombait du ciel de l'acétamipride. Donc quand on joue avec la santé des gens comme ça, et quand on fait de la rentabilité au mépris de la santé des gens, alors oui, c'est de l'argent sale.
Sandrine Rousseau qui appelle à un débat à l'Assemblée nationale et à ce qu'Emmanuel Macron ne promulgue pas le texte, et elle voit plus loin, nous ne lâcherons pas le combat, dit-elle. La députée évoque les prochaines niches parlementaires, l'occasion pour les députés de gauche de proposer un texte d'abrogation de la loi Duplon. De son côté, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, dit comprendre les inquiétudes, mais il s'abrite derrière la décision de l'Agence sanitaire européenne. Elle a autorisé l'acétamipride, pesticide, on le rappelle, réclamé par les producteurs de betteraves et de noisettes. Et il refuse, toujours sur France Info, de renvoyer dos à dos agriculture et écologie.
Cette opposition permanente entre production et environnement est intenable dans notre pays. Il faut qu'on retrouve un consensus pour faire en sorte qu'on puisse produire de manière durable et responsable. Et de l'autre, le président de la République sait très bien qu'on va avoir des sujets tels que le Mercosur. Comment peut-on continuer à échanger avec le reste de la planète en mettant des boulets aux pieds à la production française? Est-ce que non, on aura avancé aussi demain, on ne produit plus d'alimentation en France et qu'on l'importe d'ailleurs, et évidemment avec des conditions de production et des matières actives qui sont bien pires que ceux dont on parle aujourd'hui.
Et même son de cloche du côté du deuxième syndicat agricole, la coordination rurale. En revanche, la Confédération paysanne, elle soutient la pétition et met en avant des enjeux de santé publique.
Les précisions de Caroline Félix. Et suite aux attaques sur les réseaux sociaux ou attaques physiques envers les élus concernant la loi Duplon, le ministre de la Justice va envoyer en début d'après-midi des instructions de grande fermeté au procureur de la République. Gérald Darmanin demande de systématiser les poursuites pénales et de mettre en place un accompagnement individuel lorsque les parlementaires sont menacés, quel que soit leur vote. Pour les élus favorables à la loi, cette fois, l'autorisation de l'acétamipride dans les autres pays européens est la preuve de sa non-dangerosité. Pourtant, même dans l'Union européenne, Elsa Lossouarn, l'acétamipride est de plus en plus contestée.
C'est la France elle-même qui a lancé la fronde européenne contre ce néonicotinoïde. Alors qu'elle vient de l'interdire, la Commission européenne décide en 2018 de renouveler son autorisation pour 15 ans. La France soumet alors de nouvelles données qui poussent à saisir l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans un rapport paru en mai 2024, l'institution recommande de réduire drastiquement son utilisation et préconise de diviser par 5 les seuils actuellement autorisés en Europe concernant les doses journalières par personne, compte tenu, je cite, d'incertitudes études majeures dans l'ensemble des preuves concernant les propriétés de neurotoxicité développementale. Suite à ces recommandations, en début d'année 2025, la Commission européenne a donc réduit les limites maximales de résidus d'acétamipride autorisés dans certaines cultures, notamment les bananes, les asperges ou les laitues. Ces nouveaux seuils seront applicables d'ici le 19 août prochain. Une nouvelle évaluation des seuils doit avoir lieu début 2027, cette fois-ci concernant les pommes, les poires ou encore les abricots.
Les explications d'Elsa Lossouarn. Après Limoges, dans la nuit de vendredi à samedi, Béziers a également été secoué par des violences urbaines dans la nuit de samedi à dimanche. Une cinquantaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre et aux pompiers dans un quartier connu pour être gangréné par le trafic de stupéfiants. Il y a eu un blessé parmi les forces de l'ordre et un appartement a pris feu. La police, comme le parquet, parle d'un piège tendu aux forces de l'ordre et aux pompiers. Alors que de nombreuses villes, petites et moyennes, sont confrontées depuis le début de l'été à ce type de violence. Écoutez ce qu'en dit Raphaël Ballan. Il est le procureur de Béziers et vice-président de la conférence des procureurs.
La question de savoir si c'est en lien avec les trafics de stupéfiants, il y a toujours eu deux écoles sur le sujet. Ceux qui pensaient qu'en général, les quartiers où il y avait le moins de violences urbaines, c'était ceux qui étaient le plus tenus par les trafiquants de stupes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne perturber leur trafic. Et puis il y avait l'autre hypothèse, peut-être celle de Béziers et d'autres régions ces derniers jours, mais c'est une simple hypothèse, que lorsque les policiers perturbent les trafics, il y a une forme de réponse de ces groupes de trafiquants qui mobilisent un certain nombre de jeunes gens pour aller commettre en quelque sorte des représailles. Je ne sais pas s'il y a une fois de plus un nombre supplémentaire de ce type de phénomène, mais il y a une forme en tout cas de violence supplémentaire qui s'ajoute par rapport aux autres années. Il y a une petite minorité qui est dans une forme de toute puissance, d'ultra-violence. Il n'y a pas grand-chose pour les arrêter, qui donne très peu de valeur à la vie des autres et à l'autorité.
Vous réclamez, vous aussi, des moyens supplémentaires.
Actuellement, on connaît une véritable crise de la filière judiciaire. La première cause de l'impunité, c'est l'absence d'enquête. Pas d'enquêteurs, pas d'enquête. Et non pas tous les débats qu'on a sur un pseudo-laxisme de la justice. La deuxième équation, c'est pas de consommateurs, pas de trafic. C'est essentiel que toute la société s'en empare. On aura beau mettre en prison, on le fait de plus en plus avec des peines de plus en plus lourdes, des trafiquants. Chaque trafiquant sera remplacé dans l'heure qui suivra ou continuera parfois même son trafic depuis la prison parce que nous avons affaire à un marché très lucratif. Tant qu'il y aura des gens pour participer à ce marché en tant que consommateurs, ce marché sera immédiatement pris en possession par des trafiquants. Et ça, si personne ne veut vraiment s'attaquer à ça, on pourrait avoir la même conversation et de pire en pire dans les années qui suivent.
Raphaël Ballan, le procureur de Béziers, était avec Florence Sturm. Pour stopper les violences, le préfet de l'Hérault a aussi demandé le renfort de 30 CRS à Béziers. Ils font partie d'une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et les trafics de stupéfiants. Le préfet qui souhaite également viser les consommateurs en assumant une politique, je cite, de harcèlement. Enfin, toujours concernant le trafic de stupéfiants, près de Toulouse, un homme de 19 ans, connu pour des faits de trafic, a été tué par balle hier soir à Blagnac. Deux suspects ont été interpellés environ 2 heures plus tard alors qu'ils revenaient sur les lieux. En Syrie, les autorités commencent à évacuer aujourd'hui les familles de Bédouins de la ville de Souéda, à majorité druze. Un cessez-le-feu a mis fin aux affrontements sanglants entre les deux communautés qui ont fait plusieurs centaines de morts la semaine dernière. Affrontements qui ont été compliqués par l'intervention de tribus arabes sunnites qui ont afflué d'autres régions pour soutenir les Bédouins. Dans le cadre d'une trêve de 24 heures, seules 50 cargaisons de nourriture et de médicaments ont pu atteindre la ville druze du sud du pays. Aucun médecin n'a pu franchir les lignes. C'est un reportage de notre correspondant Mohamed Erani à Boussour al-Arir, ville frontière entre Deraa et Souéda, où l'opération était supervisée par 2 membres du gouvernement.
Soleil écrasant, poussière dans l'air et une trentaine de camions alignés au bord de la route. Des palettes d'eau, de pain et de kits de premiers soins. Une opération surveillée par la sécurité intérieure et les représentants du pouvoir central. Ahmed Ben Mohamed, agent du ministère syrien de la gestion des urgences.
Nous avons contacté les responsables à Souéda et nos équipes devaient entrer avec les camions. Mais Hikmat al-Ajiri, le chef religieux druze, a refusé l'entrée des médecins. Seule la nourriture est passée.
Au poste de coordination, les négociations ont duré plusieurs heures. Les ministres syriens présents sur place ont tenté d'obtenir des garanties de sécurité et de coopération. En vain, Shaker, employé du Croissant Rouge arabe,
On a proposé que des civils coincés ou blessés à Souaïda puissent être évacués. Toutes nos demandes ont été refusées par les groupes druzes et aucun soignant n'a pu entrer. Même les employés du ministère de la Santé ont été bloqués.
Cette opération manquée illustre la méfiance persistante entre le pouvoir central et les groupes armés druzes, encore solidement implantés dans Souaïda. Les combats ont cessé temporairement, mais aucun véritable accord politique n'a été trouvé et les civils, eux, restent les otages d'un bras de fer où l'aide ne passe qu'au compte-gouttes.
Un reportage de notre envoyé spécial, Mohamed Erami. L'Iran accuse les Européens de ne pas avoir respecté l'accord de 2015 sur le nucléaire. Des accusations qui arrivent alors que des pourparlers sur ce sujet doivent se tenir vendredi à Istanbul avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Téhéran, plusieurs pays occidentaux, la Chine et la Russie avaient trouvé en 2015 un accord qui prévoyait d'importantes restrictions au programme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions de l'ONU contre l'Iran. Mais en 2018, les États-Unis se sont retirés de ce texte et les Européens n'ont pas réussi à compenser le retour des sanctions américaines. Au Japon, le renouvellement hier de la moitié des 248 sièges du Sénat s'est soldé par une amère défaite pour la coalition de droite au pouvoir. Le Premier ministre Shigeru Ishiba perd sa majorité absolue à 3 sièges près. Il se retrouve donc en minorité face à une opposition émiettée mais rude dans les deux chambres du Parlement. La question de son maintien en fonction est posée, Karine Nishimura.
Partira, partira pas, à ce stade, nul ne le sait, pas même le Premier ministre en personne. Certes, Shigeru Ishiba a affiché sa volonté de se maintenir en arguant que son PLD, Parti libéral-démocrate, reste, malgré la défaite, la première formation en siège au Parlement. Et à ce titre, dit-il, il a des missions à remplir, à commencer par mettre en œuvre les politiques promises et d'insister sur le risque d'un vide du pouvoir au moment où il est plus que jamais nécessaire de trouver un accord avec l'administration de Donald Trump. Ce, pour éviter le coup de massue de nouveaux droits de douane de 25% sur les produits importés du Japon aux États-Unis, ou encore le besoin de prendre des dispositions économiques nouvelles pour la rentrée. Mais dans l'omnipotent PLD, parti divisé en clans, le chef n'est pas le seul à décider. Et le Premier ministre l'a lui-même reconnu, il exprime son souhait de rester et de mettre en œuvre son programme, mais de nombreuses discussions vont avoir lieu en interne. On sait déjà que des ténors faiseurs de rois ne sont pas d'accord. Puisqu'il n'a pas de lui-même démissionné au lendemain du scrutin, il va donc rester encore au moins quelques jours ou semaines, mais rien ne garantit qu'il conserve ses fonctions une fois passées des échéances importantes, comme la date du 1er août pour les droits de douane américains ou les cérémonies de mi-août pour les 80 ans de la fin de la guerre.
Karine Nishimura, la correspondante de France Culture à Tokyo. La passe difficile se confirme pour le géant automobile Stellantis. Longtemps l'un des constructeurs européens les plus rentables, il a annoncé une lourde perte au premier semestre, pénalisée par le recul de ses ventes, des coûts de production plus élevés et les droits de douane aux États-Unis. La perte nette s'élève à 2,3 milliards d'euros. Le directeur financier de CMA-CGM, Ramon Fernandez, vient de prendre la présidence de RMC-BFM, annonce le groupe audiovisuel, racheté en 2024 par l'homme d'affaires Rodolphe Saadé. Ramon Fernandez a débuté sa carrière au FMI à Washington et a été le directeur général délégué du groupe Orange, rappelle RMC-BFM. Il remplace Nicolas de Taverneau, parti dirigé LFP Média. Direction le Finistère pour refermer ce journal avec une initiative destinée à faire face à l'urgence climatique. La Butte, un hôtel 4 étoiles de Plouhidère, s'apprête à rouvrir son espace bien-être complètement métamorphosé après 9 mois de travaux. Le propriétaire, le chef Nicolas Conraud, a décidé de renoncer à la piscine chauffée et au hammam. C'est une première. Ces équipements ont été remplacés par des services moins énergivores. Le reportage de Nicolas Olivier d'ici Brésisel.
Le bassin de 50 mètres carrés a été recouvert par un plancher en bois.
Donc ici, c'était la piscine. Maintenant, c'est une salle que l'on appelle le refuge.
Nicolas Conraud propose une nouvelle façon de concevoir le bien-être.
On a quand même gardé nos cabines de soins qui sont là. On a des thérapeutes, en fait, qui vont venir réaliser des séances de yoga, de méditation, de qigong.
Une décision cohérente pour ce chef auréolé d'une étoile verte au Michelin pour son engagement éco-responsable.
J'aurais pu laisser cette piscine et ce traitement au chlore, mais aujourd'hui, je déclore mes eaux en cuisine. C'est pas pour proposer à des clients d'aller se baigner dans une eau chauffée à 32 degrés et chlorée.
Les clients de l'hôtel n'ont pas tous apprécié.
Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre et qui se disent, mais enfin, dans un hôtel 4 étoiles, comment il peut ne pas y avoir de piscine? médecine. Je pense qu'on doit tous réaliser qu'il y a une urgence climatique qui est réelle.
Le patron réfléchit aussi à des panneaux solaires ou des frigos enterrés, mais ces gestes environnementaux ont un coût, 1,5 million d'euros pour ce nouvel espace bien-être.
C'est pas rien, c'est une prise de risque pour nous, c'est peut-être se priver d'une certaine rentabilité, c'est vrai, mais moi aujourd'hui je préfère proposer un hébergement, une restauration la plus vertueuse possible, plutôt que me mettre le maximum d'argent dans les poches.
Nicolas Conro espère éveiller les consciences et inspirer d'autres professionnels.
Et c'était Nicolas Olivier d'ici Brésil. La météo, le temps reste orageux dans une grande moitié nord. Seul le sud de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen connaîtront un franc soleil cet après-midi et les températures de 19 à Brest jusqu'à 30 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet. Il est 12h45 sur France Culture. La suite des midis avec vous, Chloé Cambrelin.
Merci Anne Fauquemberg et à demain.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis aujourd'hui en compagnie du chef d'orchestre Pierre Bleuze. Nous avons parlé avant le journal de l'ensemble intercontemporain dont vous êtes le directeur musical et avec lequel vous serez mercredi soir au BBC Proms à Londres avec un programme Boulez et Berlioz, deux compositeurs qui auraient eu 100 ans cette année. Nous allons poursuivre avec ce qui vous occupera à votre retour de Londres, le festival Pablo Casals de Prades dont vous êtes directeur artistique. Oui, nous l'écoutons, Pablo Casals, ici dans la cinquième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Pierre Bleuze, comment a-t-il été créé ce festival de Prades dans les Pyrénées-Orientales en 1950?
Ben, tout simplement, ça a été la ville de refuge de Pablo Casals, qui, comme tant de réfugiés, fuyait le régime de Franco. Et il était à Barcelone. Et il a décidé d'arrêter complètement sa carrière. Il faut quand même comprendre qu'à cette époque-là, c'était une des plus grandes stars mondiales. Et il a tout arrêté. Et au bout d'un moment, les grands musiciens, notamment les grands musiciens américains, d'abord lui ont offert des ponts d'or pour venir aux États-Unis. Il a refusé. Et ils ont dit, bah, dans ce cas-là, on veut venir à vous parce qu'on a besoin de vous. Et ils sont venus à Prades et là est né le festival Pablo Casals. C'est incroyable parce que dans cette petite ville, dans les Pyrénées-Orientales, aux portes de l'Espagne, les Pyrénées-Orientales, c'est sublime. C'est vraiment un pays d'abord d'artistes, une terre d'artistes, mais c'est un endroit magnifique, mais un tout petit peu, j'ai l'impression, déshérité. C'est un peu qu'il faut mériter. C'est comme un joyau qu'on doit aller chercher, qu'il faut trouver. C'est un endroit absolument sublime. Et cette abbaye, au début, le premier concert qu'il a donné, il n'y avait pas de toit à l'abbaye. Et grâce à l'argent du concert, ils ont commencé à restaurer l'abbaye. Mmh. Et c'est une des plus belles acoustiques que je connaisse. Il faut savoir que tous les enregistrements de cette époque, où il y a eu beaucoup d'enregistrements live de ce festival avec les plus grands, Oistrakh, Menuhin, enfin tous sont venus là-bas, Tortelier. Ont été faites dans cette abbaye. Et donc c'est un moment spécial. Tous les artistes qui viennent aujourd'hui me disent tous, on partage ça, il se passe quelque chose, on a l'impression que les murs de cette abbaye nous parlent.
Alors ce festival fête ses 75 ans cet été, c'est du 28 juillet au 8 août, c'est votre cinquième édition. Quelle était l'idée lorsque vous en avez repris la direction? Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a donné envie?
Ben, ce qui m'a donné envie, il y avait plusieurs choses. D'abord, il y a un lien familial chez moi, puisque j'ai un grand-père maternel qui est catalan et qui est né et enterré dans cette petite ville de Ria qui est collée à Prades. Donc là, c'est une raison, c'est-à-dire que tout jeune, j'ai eu l'occasion de me balader dans cette région et ma mère est de Perpignan, donc j'avais cette attache familiale. Après ça, bien entendu, ce n'était pas suffisant. J'ai été violoniste avant d'être chef d'orchestre. J'ai fait beaucoup de quatuors à cordes, notamment, avant d'être violon solo aussi d'orchestre. Et j'ai finalement, j'ai été inspiré, comme tous, bien entendu, par ce maître qui était Casals. Mais ce lien de la musique de chambre et le Casals chef d'orchestre aussi m'intéressait énormément. Et c'est pour ça que lors de mon arrivée, c'était pendant cette période très difficile pour tous du Covid. Exactement, il y avait une très belle académie qui était depuis des années là-bas au festival, qui avait été créée par Michel Letiec. Et j'ai souhaité juste la transformer dans la forme, parce que je voulais l'adapter à notre temps. Et j'en ai fait un projet pour les jeunes d'insertion professionnelle, où les jeunes sont rémunérés, là, cette fois, et sont complètement intégrés à la programmation. Ils ont des concerts chaque matin de musique de chambre partagés à des musiciens en résidence exceptionnels, et ils font partie de cet orchestre. J'ai voulu recréer l'orchestre que Casals avait créé, et Casals, s'il y a, pour l'identifier, c'est un homme, un humaniste extraordinaire, quelqu'un qui a transmis toute sa vie. Et cette transmission à la jeunesse était essentielle pour lui. Et j'ai voulu directement avoir cette action en direction de ces jeunes.
Donc un orchestre qui existe le temps du festival.
Le temps du festival, exactement. C'est des jeunes qu'on sélectionne, des jeunes qui viennent du monde entier, qu'on sélectionne chaque année et qui peuvent rester jusqu'à 3 ans et puis mélanger à des grands solistes, des grands orchestres européens. Et puis, on a eu la chance cette année de partir hors les murs puisqu'on a été invité au festival de Pâques. Renaud Capuçon nous a invités cette année parce qu'il est à Aix. Il était venu nous jouer avec nous le double de Brahms avec Julia Hagen. Et il m'a dit en sortant, écoute, c'était fabuleux, vous venez à Aix. Et c'était pour nous, bien sûr, une grande aventure. On a fait la Grande de Schubert et le Concerto de Shostakovich avec Gauthier, justement, Capuçon. Et donc, c'est peut-être le début aussi de quelque chose d'autre pour ces jeunes.
Alors, donc, ils jouent, vous l'avez dit, le matin en musique de chambre et donc au sein de cet orchestre du festival pour l'ouverture et la clôture. Donc là, l'ouverture, ce sera le 29 juillet. Avec Gauthier Capuçon en soliste, c'est vous qui dirigez cet orchestre Pierre Bleuze, bien sûr. Alors justement, les artistes, comme à l'époque de Pablo Casals, ils viennent d'un peu partout. Il y aura Gauthier Capuçon, Edgar Moreau, David Cadouche, l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, avec qui nous étions la semaine dernière.